Place Info.
Ce qui fait battre nos cœurs est l'une des 67 expressions de la langue française avec le mot cœur. C'est aussi le titre du roman de science-fiction qui vient de paraître aux éditions Syros et que vous avez écrit, Florence Hinkel. Bonjour.
Bonjour.
Et toi, Anna, tu l'as lu et aimé ce roman. Bonjour.
Bonjour.
Anna, tu veux bien nous résumer l'intrigue de ce roman?
À la moindre émotion, la petite sœur d'Esteban, elle est très en danger parce qu'elle vit avec un cœur artificiel de bas de gamme. En 2030, on peut acheter des organes de très haute qualité et sûrs, fabriqués par la société organique, mais il faut pouvoir se payer.
Alors, quelle est ta première question pour Florence Hinkel, Anna?
D'où vous est venue l'idée d'écrire ce roman?
Ça fait plusieurs années que j'ai réfléchi parce que j'ai commencé à écrire sur le transhumanisme avec un roman qui s'appelle Théâtre pour l'éternité, où j'avais réfléchi sur la suppression de la vieillesse. Qu'est-ce qui se passerait si on ne vieillissait plus?
Voilà. Et déjà, on peut peut-être rappeler la définition du transhumanisme?
Oui, en fait, le transhumanisme, c'est un mouvement qui aimerait éradiquer tout ce qui nous embête énormément en tant qu'être humain, c'est-à-dire la vieillesse, donc la douleur. Et j'ai écrit mon second roman qui s'appelle Hashtag Bleu, qui traite de ce domaine-là, de la douleur, le handicap, la maladie et pourquoi pas la mort, tant qu'on y est. Hein. Rester à traiter le thème du handicap et de la maladie. Quand j'ai eu cette idée de cœur artificiel, de petite fille qui risquait de mourir, voilà, j'étais lancée. Là, j'avais le début de mon histoire et voilà comment est né ce qui fait battre nos cœurs.
Dans votre roman, c'est un jeune homme, hein, Esteban, qui dénonce cette société complètement inégalitaire où donc on a accès aux meilleurs organes seulement si on est riche. Est-ce que Greta Thunberg, cette jeune militante suédoise qui lutte pour le climat, est-ce qu'elle vous a inspiré pour ce roman?
Alors, on a commencé à en parler après que j'ai commencé l'écriture du roman. Donc, elle m'a pas inspirée, mais quand elle est arrivée sur le devant de la scène, en effet, je me dis, mais c'est fabuleux, en fait. Hein. Il y a eu les gilets jaunes un peu en même temps aussi. J'ai beaucoup pensé. J'avais commencé aussi l'écriture du roman avant. Il y a une capacité de révolte extraordinaire, moi, je trouve. Et c'est très beau. Et surtout chez les jeunes. Voilà, il y a les jeunes qui osent, et souvent des jeunes filles d'ailleurs, hein, des très jeunes filles, qui osent dire non. On l'a vu aussi aux États-Unis hein, pour les tueries de masse. Des jeunes filles qui vont devant le micro, qui vont sur scène et qui disent « Non, on n'est pas d'accord. Non, on n'est pas endormi. Non, on n'est pas stupide. On n'est pas crétin. Arrêtez de nous faire avaler des couleuvres pareilles. » Et c'est très beau. Voilà. Et moi, c'est ça que j'ai eu aussi envie de raconter, même si je l'ai raconté avant que tout ça arrive. Hein. Donc, c'était très bien. J'étais très contente d'être dans l'air du temps. Hein. C'est magique quand ça arrive. Et voilà, j'ai eu envie de raconter que malgré tout ce qui peut arriver de grave et de ce qu'on arrive à nous faire accepter, eh bien non, il y a des voix qui s'élèvent et souvent des jeunes voix.
Est-ce que vous pensez que pour nous, ce serait possible, enfin que ce soit un futur proche?
Alors, quand on écrit de la science-fiction, je crois que c'est Ray Bradbury qui disait cette phrase, c'est qu'on écrit de l'anticipation, non pas pour prévoir le futur, mais pour essayer de l'empêcher. Voilà.
Est-ce que vous avez vraiment voulu faire passer un message d'injustice dans ce roman?
Ah oui, quand même. Oui, c'est vraiment. J'ai vraiment voulu parler des inégalités sociales et des accès inégaux à la santé, au bien-être du coup. Voilà, et ça existe déjà aujourd'hui. Et on fait comme si ça n'existait pas et comme si le fossé ne s'élargissait pas. Or, il s'élargit de plus en plus. Il faut en parler. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce roman aussi.
J'aurais aussi une autre question sur votre écriture, parce que je l'ai beaucoup aimé. En fait, j'ai trouvé que votre description et le ressenti des personnages ressemblaient à notamment un auteur, Joseph Kessel, que j'ai lu. Et donc, du coup, ça m'a beaucoup plu. Et je me suis demandé si vous saviez ou alors vous aviez vraiment conscience que...
Ah, pas du tout. C'est très flatteur. Hein. Ça me plaît
oui,
beaucoup.
Votre écriture était
alors là,
bien.
Je suis très flattée. Non, j'ai pas du tout conscience de ça. Mais c'est vrai que je lis beaucoup. Et peut-être, forcément, ça se ressent. Je lis beaucoup de classiques. Hein. J'aime beaucoup ça. Beaucoup de contemporains. Enfin, je lis beaucoup de tout. Donc, je pense qu'on est imprégné de ce qu'on lit quand on écrit. Forcément, ça se ressent. Donc, si tu es la première à me le dire, ça me fait très, très plaisir.
Florence Hinkel, est-ce que vous avez une idée de roman que Anna pourrait lire, qui vous a peut-être vous marqué dans votre enfance?
Ah oui. Alors, c'est vrai que moi, quand j'avais ton âge, j'avais moins d'offres. Hein. Donc, moi, à ton âge, je lisais Arsène Lupin, mais ça a vieilli quand même. J'étais amoureuse d'Arsène Lupin complètement. J'ai lu toute la série. Pioche plutôt dans ce qu'il y a actuellement, en effet. Et moi, dernièrement, mon dernier gros coup de cœur en littérature jeunesse que tu peux lire, donc, peut-être tu l'as déjà lu, hein, c'est La Passe-Miroir de Christelle Dabos.
Ah oui, je connais.
Tu l'as pas lu encore?
Non, j'ai pas encore
lu. Pourtant, je suis pas fantasy du tout d'habitude, mais alors là, je suis rentrée dans un univers, j'ai adoré. Donc voilà, mon conseil lecture.
Merci Anna de nous avoir transmis ce coup de cœur. D'ailleurs, voilà encore une expression qui résonne bien avec ce qui fait battre nos cœurs. Merci à vous aussi, Florence Hinkel, d'être venue depuis La Ciotat nous voir à France Info. Longue vie à ce roman palpitant que l'on imagine d'ailleurs très bien voir se décliner en film. En attendant, toutes les trois, on va vous lire un extrait.
C'est un extrait qui se situe pendant la cavale. Les chaînes d'infos s'interrogent sur donc les motivations d'Esteban et pourquoi il a fait ça. Et donc du coup, ils interrogent ses proches.
Et donc on commence par Freddy Lavorel, ami d'Esteban Agostino. Esteban, il ne ferait pas de mal à une mouche. Non, croyez-moi, s'il en est arrivé là, c'est par désespoir. Beaucoup de gens en seraient arrivés à des extrémités bien pires qu'Esteban pour sauver leur petite sœur. Il n'est pas un criminel, c'est un héros. Florence, à vous, donc vous êtes Amalia Agostino, mère d'Esteban.
Je ne comprends pas ce qu'il lui a pris. Cela ne lui ressemble tellement pas. Je sais qu'il s'inquiète pour sa petite sœur, mais je lui ai appris qu'il y avait toujours une meilleure solution que celle d'enfreindre la loi. Et maintenant, cet accident avec ce camion, c'est effroyable. Esteban, si tu m'entends, je t'en prie, arrête tout ça. Rends-toi, libère tes otages, et je suis certaine que la justice sera clémente. Il est encore temps. Je te promets qu'on trouvera une solution pour Sofia. Je te le promets.
Et c'est à toi, Anna. Toi, tu es Charlotte Maddy, mère de Leila Maddy.
Je refuse que la vie privée de ma fille soit ainsi exposée à la face du monde. Lui avez-vous demandé son avis? Non, n'est-ce pas? Alors j'exige qu'on retire les images de ce baiser. Vous n'avez pas le droit. Cette fille a manipulé, c'est certain. C'est indigne.
Eh bien, merci beaucoup pour cette lecture. À la semaine prochaine. D'ici là,
Florence Hinkel,
Anna
et moi, nous vous souhaitons de belles lectures à tous et qui feront battre vos cœurs, bien sûr.